Si Saint-Michel Archange fut, avant l'origine des temps, le chef des cohortes célestes, il est raisonnable de croire qu'il est encore aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde le stratège de cette guerre implacable où nous sommes engagés. Toutes les fois qu'il s'agit d'une œuvre de merveilleuse puissance, dit le saint pape Grégoire le Grand, c'est Michel que l'on nous dit envoyé, pour que son intervention même et son nom nous donnent à entendre que personne ne peut faire ce que Dieu seul a le privilège de faire. L'antique ennemi qui a désiré par orgueil être semblable à Dieu disait « J'escaladerai les cieux, par-dessus les étoiles du ciel, j'érigerai mon trône, je rassemblerai le Très-Haut. » Or, continue Grégoire le Grand, l'Apocalypse nous dit qu'à la fin du monde, lorsqu'il sera laissé à sa propre force, avant d'être éliminé par le supplice final, il devra combattre contre l'archange Michel. Il y eut un combat contre l'archange Michel. Nous comprenons aisément que saint Michel Archange, tant dans la tradition juive que dans la tradition chrétienne, est considéré comme le plus grand des anges, puisqu'il est préposé à la défense du peuple élu, c'est du moins ce que nous lisons dans le livre de Daniel, dans l'unique combat qui fait toute l'histoire du monde. Même si le nom du représentant et protecteur d'Israël n'apparaît pas dans le Vieux Testament, du moins en dehors du livre de Daniel, les traditions juives affirment qu'il présida aux 10 plaies d'Égypte et qu'il conduisit les Hébreux à travers le désert avant que de soutenir Josué prêt à investir Jéricho. Selon les apocryphes judaïques, Michel, qui se tient devant le trône de Dieu, sera l'avocat des justes lors du jugement après la mort, ce dont le saint apôtre Jude se fait l'écho en racontant la mort de Moïse. Maintenant que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, l'archange Saint-Michel est son protecteur et son soutien dans toutes ses luttes pour la défense et l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. D'aucuns pourraient penser que cette vision des choses est par trop dépassée. Mais ce que je viens d'énoncer sort moins de ma bouche que de celle du précédent pape qui concluait « Dans cette lutte, l'archange Michel est aux côtés de l'Église pour la défendre contre toutes les iniquités du siècle, pour aider les croyants à résister aux démons. » Ainsi, la chrétienté s'est-elle très tôt confiée à la protection de l'archange Saint-Michel. Peut-être serait-il trop long ici de développer les apparitions et les dévotions catholiques à Saint-Michel, mais pour se convaincre, s'il en était besoin, il suffirait de considérer les très nombreux sanctuaires qui lui sont dédiés. Mais pourrait-on objecter ? L'archange Saint-Michel n'est pas que le défenseur et le patron de la France, mais de tous les États chrétiens du monde, puisqu'il est le défenseur et le protecteur de toute l'Église. Certes, mais il est tout particulièrement de la France, parce qu'elle est et parce qu'elle demeure la fille aînée de l'Église. Entendons-nous bien, chrétiens. La France n'est pas la fille aînée de l'Église parce qu'elle est le premier royaume authentiquement catholique né des ruines de l'Empire romain. Elle ne l'est pas davantage parce que ses rois acquirent ses États au souverain pontife et souvent les lui conservèrent. La France est la fille aînée de l'Église parce qu'elle a une destinée divine, en faveur de la conversion des autres peuples. Il n'y a pas longtemps, à Paris, le Saint-Père soulignait cette vocation à l'universalité, lorsqu'il disait « Vouloir rendre hommage à l'imposant patrimoine de culture et de foi » qui a façonné votre pays de manière éclatante durant des siècles et qui a offert au monde de grandes figures de serviteurs de la nation et de l'Église, dont l'enseignement et l'exemple ont franchi tout naturellement vos frontières géographiques et nationales pour marquer le devenir du monde. À peine Clovis était-il rené des eaux du baptême que le saint évêque Avit de Vienne lui a signé cette mission en lui écrivant « Puisque Dieu, grâce à votre zèle, va faire de votre peuple son peuple, il vous appartient de répandre chez les peuples d'au-delà les trésors de votre cœur, de propager les semences de la foi chez les peuples qui vous entourent et qui, dans leur ignorance naturelle, n'ont pas été touchés par la corruption de l'hérésie. N'épargnez rien pour leur envoyer des ambassadeurs et pour étendre le royaume d'un Dieu qui a tant glorifié le vôtre. Ainsi, les peuples étrangers encore païens viendront au nom de la religion se ranger sous votre empire. » Ne faites pas parler de manière extravagante le pontife viennois, dont je vous souligne au passage qu'il est alors un étranger. Si bien que lorsqu'il s'adresse à Clovis, il ne s'adresse pas à son roi, mais il s'adresse aux nouveaux chrétiens. Ça n'est pas un texte laudateur et courtisan d'un évêque qui vit dans le royaume des Francs, mais c'est un appel déchirant d'un évêque étranger qui voudrait bien connaître la paix du Christ dans son pays. Mais lorsqu'il dit à Clovis « se ranger sous votre empire », cela ne signifie pas être absorbé dans l'unité nationale française dont personne n'a alors la moindre idée et qui n'appartient à aucune pensée à l'époque où l'on parle. Il s'agit bien plutôt de se ranger sous sa mouvance. Je veux dire par là de se ranger dans son esprit, non point tant sous un empire temporel, mais sous l'empire du Christ, comme voudra être la chrétienté qui conjuguera dans un même ensemble de foi des éléments libres et divers. Alors que saint Avit de Vienne écrit ce que nous venons d'entendre, le pape Athanase II, lui aussi, envoie une épître à Clovis pour le féliciter de son baptême. Il décrit, avec l'autorité du chef de l'Église, les conditions du pacte conclu en ce jour au baptistère de Reims avec la nation des Francs qui, dit-il, sera chargée de protéger l'Église de Dieu contre tous ses ennemis. Si Saint-Michel Archange est le protecteur de la France, ce n'est qu'en tant qu'elle est la fille aînée de l'Église. Peuple choisi comme propagateur de l'Évangile et défenseur du siège de Pierre. Les temps étant passés, la conviction des souverains pontifes ne changera pas. Ainsi, Grégoire IX, écrivant à Saint-Louis, ne craignait pas d'affirmer que la tribu de Juda était la figure anticipée du royaume de France, ajoutant qu'il est manifeste que le Rédempteur a choisi le béni royaume de France comme l'exécuteur de ses volontés, il le porte suspendu en guise de carquois, il en tire ordinairement ses flèches d'élection, quand, avec l'arc de son bras tout-puissant, il veut défendre la liberté de l'Église et de la foi, broyer l'impiété et protéger la justice. Est-il besoin d'en dire davantage à une assemblée aussi informée que la vôtre? Dois-je appeler encore les témoignages des papes jusqu'à celui sous lequel nous vivons heureusement aujourd'hui? Nos ancêtres avaient parfaitement conscience de ce rôle important de la France vis-à-vis de l'Église et de l'amour de prédilection du Christ pour eux. Nous en trouvons la preuve dans une vieille liturgie où au 7e siècle, il disait « Ô Dieu tout-puissant et éternel qui avez établi l'empire des Francs pour être dans le monde l'instrument de votre divine volonté, le glaive et le bouclier de votre sainte Église, nous vous en prions, prévenez toujours et en tout lieu de la céleste lumière les fils suppliants de la nation française, afin qu'ils voient ce qu'il faut faire pour l'établissement de votre règne en ce monde, et afin que pour accomplir ce qu'ils auront vu, ils soient remplis de charité, de force et de persévérance. » Le prologue de la loi des Saliens commençait à la fois ce cri de reconnaissance et cette protestation de fidélité, « Vive le Christ qui aime les Francs !» Nos pères croyaient fermement que Dieu a choisi la France parmi les nations pour être son instrument dans le monde, comme il avait choisi autrefois le peuple juif pour garder le dépôt de la révélation. Souvent fidèle à sa mission, la France en a reçu la récompense par une prospérité qui a fait l'envie des autres nations. Infidèle à certains moments, elle s'est vue punie parfois durement, mais jamais abandonnée. Au moment les plus critiques, alors que tout semble perdu pour elle, la Providence intervient directement pour réparer en un clin d'œil les blessures les plus mortelles. Le miracle qui a inauguré son histoire à Tolbiac se reproduira maintes fois en sa faveur. Et on pourrait le croire aux apparences, dans le but unique de sauvegarder sa vocation universelle, fût-ce contre les Français eux-mêmes. De toute cette conduite de la Providence à notre égard, nous devons conclure que le vrai moyen de grandeur pour la France, c'est non pas de s'occuper de ses intérêts personnels, mais de faire régner Jésus-Christ chez elle et dans le monde, et d'assurer la liberté du pontife romain contre tous ses ennemis. Imaginez, chrétiens, les belles pages que nous pourrions alors ajouter à notre histoire nationale si nous étions fidèles au prologue de la loi des Saliens, « Vive le Christ qui aime les Francs !» Si telle est la destinée de la France, comme les papes nous l'affirment, il est bien évident qu'elle est particulièrement protégée par l'archange Saint-Michel. Outre que nos ancêtres crurent que le crème du baptême de Clovis avait été apporté du ciel par Saint-Michel lui-même, ils répondirent à la voix de l'archange qui, au mont Saint-Michel, voulut être honoré comme le patron spécial et le protecteur de la France, devant qui Gilles de Bertrois vint déposer son sceptre et sa couronne. Bien avant que l'archange pressentît Saint-Aubert pour l'édification de sa basilique au mont Tombes en 709, ce qui deviendra le mont Saint-Michel, la dévotion des Gaules à Saint-Michel était déjà fort ancrée. Pour mémoire, rappelons qu'une reine burgonde lui avait élevé un sanctuaire à Lyon dès 506. Que Sainte-Martia avait introduit son culte en Arles dès 511. Que Limoges lui avait dédié une église dès 550 et que le Saint-Évêque Bernard du Mans avait dévolu des dîmes à l'un de ses sanctuaires dès 614. La première mouture de ce qui deviendra l'abbaye Saint-Michel en Thiérache date de la deuxième moitié du 7e siècle. Après que Charlemagne eut fait représenter l'archange sur ses étendards où il fit inscrire Saint-Michel, patron et prince de l'Empire des Gaules, Louis le Débonnaire, avant que de se lancer à la conquête de la Bretagne, vint pèleriner au mont Saint-Michel. Souffrez que je vous souligne que tant Louis le Débonnaire que son père Charlemagne avaient une notion de la conquête qui nous échappe totalement aujourd'hui. Rappelez-vous la guerre de Charlemagne contre les Saxons. Dieu sait si l'on nous en a raconté de terribles sur la conversion des Saxons. La récente histoire laïque et obligatoire se plaît à nous montrer un petit peuple charmant, tout occupé de son bien-être écologique, assailli par des hordes de soudards avinés. Or, s'il s'agissait pour les Francs de manger pour n'être pas mangé, il s'agissait aussi de faire de nos ennemis nos frères. À cet égard, l'histoire de Witiking, leur prince, est bien instructive. Lorsque Charlemagne finira par le prendre, il n'eut de cesse que de le convertir à la foi chrétienne, non par la force, mais par la raison et la grâce. Lorsqu'il fut baptisé à Attigny, en 785, Charlemagne fut son parrain. L'a-t-on enfermé dans quelque château? L'a-t-on jeté dans quelque cachot? Le tint-on au secret dans quelque prison? Point du tout. On lui donne la couronne ducale de Westphalie, on lui rend ses armes et ses troupes. L'ennemi était devenu le frère, et aujourd'hui, si vous étiez à Paderborn ou à Minden, vous pourriez honorer le bienheureux confesseur Witiking chaque jour du 7 janvier.